Franck Ferrand sur Europe 1, au cœur de l'histoire.
Pour son dernier direct de la saison, Franck Ferrand a convoqué cet après-midi une star des lettres françaises. Bonjour Franck.
Bonjour Ombline, bonjour à tous. J'avais le choix ce matin entre vous parler de football et maintenir notre programmation telle qu'elle avait été vue. Alors même si je suis heureux pour Antoine Griezmann et ses complices, il m'a paru qu'au milieu de cette journée bleue de France, il ne nous ferait pas de mal de jeter dans nos esprits quelques couleurs différentes. Et c'est pourquoi, en compagnie de Nathalie Price et de Jean-Jacques Gauthier, je vous propose de nous rendre à Saché, en Touraine, à la rencontre d'un certain monsieur Balzac.
Et tout à l'heure, à la fin de l'émission, vous répondrez à la question d'Armel qui voudrait savoir depuis quand on dort à deux dans le même lit.
Mais vous en avez de ces questions. Autrefois, les lits pouvaient accueillir bien du monde. Vous savez, pour le moment, nous avons rendez-vous avec l'auteur de la comédie humaine.
Europe 1. Au cœur de l'histoire.
Franck Ferrand.
Puis je vis dans un fond les masses romantiques du château de Saché. Mélancolique séjour plein d'harmonie, trop grave pour les gens superficiels, chers aux poètes dont l'âme est endolorie. Aussi, plus tard, en aimais-je le silence, les grands arbres chenus et ce je ne sais quoi mystérieux épandu dans son vallon solitaire. Ces quelques lignes, extraites du Lys dans la vallée, publié en 1836, ces quelques lignes suffisent à nous convaincre de l'amour de Balzac pour le château de Saché. Il faut vous dire que cette bâtisse, à la fois noble et coquette, qui est installée au cœur de la vallée de l'Indre, au sud-ouest de Tours, donc Tours, la ville natale de l'écrivain, cette bâtisse a vu s'épanouir son génie et ce style unique, vigoureux, disparate qui devait révolutionner notre littérature. Pour Honoré de Balzac, le château de Saché a été tout au long de sa vie un lieu clé, à la fois un refuge, un lieu d'écriture, une maison de repos, un laboratoire d'une certaine manière et même un sujet d'inspiration, vous l'aurez vu. Le lien si fécond entre notre prodigieux écrivain et cette demeure de Saché, ce lien se tisse dès l'enfance à la faveur d'un étonnant secret de famille. Tout a commencé quand les parents du jeune, du petit Honoré, Bernard-François Balzac et sa femme, Anne-Charlotte Laure Salambier, quand les parents donc d'Honoré se mettent à fréquenter un autre couple de leur voisinage, les Margonnes, qui sont justement installés au château de Saché. Disons-le, chacun des deux ménages est assez singulier et l'est pour des raisons différentes. Côté Balzac, madame a 32 ans de moins que monsieur. Côté Margonne, les époux sont cousins et n'ont été mariés, semble-t-il, que pour maintenir dans la famille ce beau petit château. De plus, si l'on se réfère au bref portrait que Balzac, bien des années plus tard, brossera de madame de Margonne, on peut supposer qu'elle n'est pas tout à fait la campagne la plus agréable. L'auteur la décrira en effet comme, je le cite, « une femme intolérante et dévote, bossue, peu spirituelle ». Ainsi, bien vite, il semble que Jean de Margonne s'intéresse davantage à la jolie madame Balzac qui, selon toutes les apparences, n'est pas insensible au charme de son soupirant. Charme assez distingué, il faut le dire. Georges Poisson précise, à madame Balzac pesait souvent la présence d'un mari âgé, autoritaire, suffisant et assez vide intellectuellement. Margonne avait entrepris de la consoler et il en était résulté un fils, Henri, dernier de la famille, que le père Balzac avait entériné sans, semble-t-il, poser trop de questions. Vous me voyez venir, le châtelain de Saché serait le véritable père du petit frère d'Honoré, sans qu'on sache à quel point le futur écrivain en a eu vraiment conscience. Quoi qu'il en soit, madame Balzac donne tout de suite à cet enfant, ce dernier-né, une affection dont elle prive les deux aînés, Honoré et sa sœur Laure. D'ailleurs, le petit Henri n'étant même pas encore né, Honoré est envoyé poursuivre sa scolarité loin de chez lui, à Vendôme. Il a à peine 8 ans à l'époque. Et certains auteurs, certains biographes ont vu là l'éloignement d'un fils mal aimé, peut-être devenu même importun à sa mère. Pour le jeune Honoré, c'est en tout cas le début d'une période pénible qui va durer 6 ans, période vendômoise pendant laquelle madame Balzac ne vient voir son fils que 2 fois. terrible relation dépourvue de tendresse entre cette mère dure, glaçante, disent certains, et un fils plein de sensibilité et doté déjà d'un esprit peu ordinaire. Le biographe le plus célèbre de Balzac, Stefan Zweig, l'assure « Jamais, malgré sa bonhomie naturelle, l'artiste n'a pu, dans son âge mûr, oublier les rebuffades qu'il avait subies de cette étrange mère. » Quand Honoré rentre enfin chez lui en 1813, on peut dire qu'il n'est plus le même. 1813, ça veut dire que c'est un adolescent, il a 14 ans. C'est plus le petit garçon, évidemment, qui était parti de la maison. Et surtout, sa mine a de quoi inquiéter. Il a l'air renfermé, il est en petite forme. On se dit qu'un petit séjour dans un endroit calme et paisible, à la campagne, pourrait le requinquer un peu. Et aussi étonnant que ça puisse paraître, on l'envoie passer un peu de temps chez les époux Margonne, au château de Saché. Monsieur Paul Métadier, qui connaît Saché mieux que personne et que je suis heureux de citer, le raconte. Quelques semaines au grand air rétablirent rapidement la santé de cet enfant robuste de 14 ans. Avec ce premier séjour, il acquit la conviction que là, il pourrait toujours refaire ses forces, sans manifester aucune rancune envers monsieur de Margonne, en qui il ne vit désormais qu'une relation de sa famille. À cette occasion, il semble probable qu'on ait installé Honoré dans une chambre modeste, une chambre du deuxième étage. Il y a là un petit lit placé dans une alcôve, une fenêtre donnant sur un vallon tranquille et solitaire. Eh bien, c'est précisément ici, dans cette pièce, que des années plus tard, il viendra rédiger quelques-uns de ses chefs-d'œuvre.
Un extrait du mariage secret du compositeur italien Domenico Cimarosa sur Europe 1. On vous retrouve dans un instant, Franck Ferrand, et vous continuerez d'évoquer le jeune Honoré de Balzac, un grand écrivain en devenir.
L'histoire sur Europe 1, c'est avec Franck Ferrand. Franck Ferrand, 14h-15h sur Europe 1.
Et on vous retrouve, Franck Ferrand, pour la suite de votre récit sur Balzac installé dans la demeure qui verra naître ses plus grands chefs-d'œuvre.
Et oui, à partir de 1823, donc vous voyez que nous avons avancé bien sûr dans la chronologie, Honoré, qui est devenu maintenant un jeune adulte, il a 24 ans, va revenir à Saché. Son ambition, encore un peu diffuse, marque le lieu. C'est probablement dans ces années-là, en effet, qu'il grave sur le lit de sa chambre, avec une lame, les initiales H2SA, c'est-à-dire Horace de Saint-Aubin. C'est l'un des pseudos, l'un des pseudonymes de ses premiers balbutiements littéraires. Pour lui, lorsqu'il vient de Paris, aller à Saché constitue un voyage assez long. Il faut presque une journée pour atteindre Tours et parfois, il finit sa route à pied à travers de nombreux kilomètres de campagne. Les voyages sont compliqués à cette époque. C'est surtout à partir de 1829 que le lien d'Honoré avec Saché va se transformer. Il est à 1829, il est à un tournant de sa vie. Son premier véritable roman sous son nom, L'Échouan, vient de paraître et sa vocation d'écrivain désormais est clairement établie. L'une de ses connaissances de l'époque, après avoir évoqué son embonpoint, le décrit ainsi. un grand front où il y avait comme reflet de lampe et des yeux bruns remplis d'or qui exprimaient tout avec autant d'honnêteté que la parole. Il y avait dans tout son ensemble, dans ses gestes, dans sa manière de parler, de se tenir, tant de confiance, tant de bonté, tant de naïveté, tant de franchise qu'il était impossible de la connaître sans l'aimer. Une bonne humeur tellement exubérante qu'elle en devenait contagieuse. Et déjà, à cette époque, le jeune homme connaît un certain nombre de difficultés financières. Il a voulu mettre sur pied une imprimerie, ça a tourné à la catastrophe. Ce sera le cas toute sa vie. Vous savez, il a tendance à se lancer dans des projets très ambitieux, parfois même un peu fous, qui sont censés lui apporter réussite et fortune. Voilà l'obsession d'Honoré, toujours. Cette espèce de fortune qui se dérobe, évidemment, car il est bien fréquent que les affaires en question se soldent par des dettes. C'est qu'Honoré est un homme porté par une sorte de souffle, vous savez, un souffle vital, quasi surhumain. D'ailleurs, il va se révéler de plus en plus excessif dans tous les domaines, dans son goût pour les femmes, dans son attrait pour les possessions matérielles et de façon plus heureuse, dans le mûrissement de son œuvre littéraire. Alors, et Saché, me direz-vous, eh bien, le château de Saché, tellement reposant, un peu à l'écart, comme ça, à l'écart de tous les ennuis parisiens, ce château devient un lieu idéal pour lui, dès lors qu'il est question de travailler. Entre 1829 et 1837, Honoré va concevoir là, ou écrire à Saché, en partie, une série de chefs-d'œuvre. Alors, Le Père Goriot, César Birotteau, Illusion perdue, ou encore, bien sûr, Le Lys dans la vallée. Et pendant cette période, il n'hésite pas à se rendre souvent, longuement, donc, à Saché, quitte à s'imposer un peu chez les époux Margonne, qui sont toujours là, bien entendu. Pour l'essentiel, il y vit d'ailleurs à son rythme, un rythme à peine croyable et que nous décrit Georges Poisson. Couché à 10h du soir, sauf exception, il se réveillait à 2h du matin et écrivait alors jusqu'à 5 de l'après-midi, soit au lit, à côté sur ses oreillers et les genoux relevés sous un pupitre, soit à sa table, levant parfois les yeux vers la fenêtre. Pendant ces 15 heures de travail, il consommait des fruits, beaucoup de fruits, des tartines de pain grillé et, bien sûr, du café, préparé sur une petite lampe à esprit de vin qu'il tenait au chaud. Nous faisons toute réserve sur la qualité de ce café réchauffé, mais Balzac n'était raffiné ni en cuisine, ni en amour. En fait, on est très loin de son ami Alexandre Dumas, là, qui lui faisait très attention à tout ce qu'il ingurgitait, vous savez, et considérait la préparation du café comme un des beaux-arts. C'est pas le cas du tout chez Balzac. Le café, c'est le carburant d'Honoré. Il prend l'habitude d'en consommer des quantités folles qui probablement ne seront pas sans rapport avec les problèmes cardiaques qu'on va le voir bientôt devoir surmonter. Mais au-delà des heures consacrées à son travail, vous aurez compris que c'est quand même une immense partie de la journée, Honoré ne peut pas se dérober à toutes ses obligations vis-à-vis de ses hôtes. Et ça, bien entendu, de temps en temps, ça lui pèse. Il écrit par exemple un jour à une amie « Ici, je suis gêné par la vie de château. Il y a du monde. Il faut s'habiller à heure fixe. Cela semble étrange à des gens de province de rester sans dîner, c'est-à-dire sans prendre leur pas de midi à l'époque, pour suivre une idée. Ils m'en ont déjà bien étranglé avec leurs cloches. » Ainsi, le voilà qui partage dans la soirée quelques heures avec les époux Margonne. Et parfois, il est prié de rester avec eux un petit peu plus tard. Il arrive qu'Honoré les distrait, ainsi que les invités qui se trouvent là, en parlant de son travail en cours. Il en vient alors à s'étendre sur les nœuds de ses intrigues et même à interpréter les rôles de ses différents personnages. Vous imaginez ce que ça devait être. On aurait adoré se trouver dans le salon de Saché les soirs où Balzac se mettait à mimer la comédie humaine. Ça devait être invraisemblable. Et on peut imaginer, à mesure que Balzac devient un nom dans l'Europe entière, une célébrité, on peut imaginer le privilège que la compagnie qui se trouve justement à Saché ces soirs-là a bien le sentiment de connaître. Mais cette période très productive pendant laquelle le lien entre Honoré et Saché est le plus fort, cette période va s'achever en 1837. L'écrivain est happé par toutes ses obligations, par ses autres lieux de séjour, par ses aventures diverses dont j'ai eu souvent ici même l'occasion de vous raconter les plus saillantes. Il semble que pendant plus d'une décennie, il ne remette plus du tout les pieds à Saché.
Au cœur de la vie et de l'intimité d'Honoré de Balzac cet après-midi sur Europe 1 et nous attendons encore aujourd'hui, comme ce fut le cas toute l'année, vos messages, vos questions par mail europe1.fr via Twitter, celui de Franck Ferrand ou hashtag ACDH ou sur la page Facebook de l'émission. Vous restez avec nous. Dans un instant, avec vous, Franck Ferrand, nous retournerons à Sachez le refuge de Balzac.
Europe 1, au cœur de l'histoire.
Franck Ferrand, 14h, 15h. Sur Europe 1.
Au cœur du château de Sachet en Touraine avec vous, Franck Ferrand, la demeure sacrée d'Honoré de Balzac.
Et oui, vous savez que c'est, d'ailleurs c'est le musée Balzac, c'est un des musées Balzac aujourd'hui, ce château de Sachet, qui a vu éclore le génie littéraire d'Honoré, particulièrement durant cette décennie 1830. En concevant la comédie humaine, l'écrivain réalise quelle est sa stature. C'est à nouveau Stefan Zweig qui l'explique. Balzac sait qu'il est une puissance et même une grande puissance, dit-il. Il a pris conscience de sa force. À sa propre surprise, il s'est aperçu que la littérature était son don personnel et qu'avec sa plume, il pouvait conquérir le monde comme Napoléon avec son épée. Et Zweig ajoute un peu plus loin, étonné lui-même de l'amplitude de son talent, Balzac veut connaître ses limites. Il veut savoir ce dont il est capable. Il sent lui-même combien vaste est sa mesure et qu'elle renferme en elle tout un monde. Seulement, ses ambitions se heurtent à des réalités concrètes un peu moins élevées. Honoré a tendance à se disperser, vous l'aurez compris, parfois même à travailler trop vite, ce qui nous vaut certaines phrases assez cocasses du reste. Et de plus, il est fatigué. Sa santé décline au fil des années. Dans la deuxième moitié de la décennie, de cette décennie 1830, qui est très importante pour la France, ouais, c'est le moment où s'installe le pouvoir de Louis-Philippe, ce qu'on appellera la monarchie de Juillet. Pendant la deuxième partie de la décennie, son ami, le docteur Nacquart, lui recommande plusieurs fois d'aller se mettre au vert à Sachet. Marie-Alice Berthaud le souligne, je la cite, « Le brave Toubib n'ignorait pas que ce château où Balzac affirmait être heureux comme un moine avait tous les avantages d'un monastère, vie calme, studieuse, bien réglée et chaste. » Mais Honoré poursuit sa fuite en avant et des problèmes de plus en plus sérieux apparaissent. En 1845, la gravité de ses problèmes cardiaques ne fait plus de doute. Il a aussi des faiblesses respiratoires et toutes sortes de douleurs qui bientôt vont gêner ses activités d'écriture. Or, malgré son état, il continue à voler de projet en projet. En 47, il voyage notamment en Ukraine auprès de celle dont il a voulu faire son épouse, vous savez, Madame Anska. Et lorsqu'il rentre à Paris au début de 48, il a donc presque 49 ans, c'est pour assister à cette vague révolutionnaire. Février 48, vous savez, c'est la fin du règne de Louis-Philippe, déjà. C'est un moment difficile pour Honoré qui, comme toujours, a de gros problèmes d'argent. Ses projets théâtraux ne sont guère concluants. Aucun éditeur n'a l'intention de lui signer de chèque en blanc. Et tout ça ne l'empêche pas, pourtant, de rester, lui, très dépensier. Et nous verrons pour quelle raison dans un instant, puisqu'il était un amoureux des beaux-arts et notamment de la décoration, du mobilier, etc. On va y venir, bien sûr. Sa santé se ressent de toutes les contrariétés qu'il doit affronter et au printemps, Honoré éreinté accepte une nouvelle invitation de monsieur de Margonne à Sachet. Il écrit à madame Anska, qui est restée là-bas, vous savez, en Ukraine, « Je vais tenter à Sachet un suprême effort. Après, il adviendra ce qu'il pourra. J'aurai tout fait. » Tout ce qu'un grand courage peut faire. Il n'est semble-t-il pas revenu au château donc depuis 37 et le lieu n'est plus tout à fait le même, je cite à nouveau Paul Métadier. La défunte madame de Margonne avait été remplacée comme maîtresse de maison par mademoiselle Alix Salex, filleule de madame de Margonne. Elle était âgée de 32 ans. Si les bruits qui couraient étaient fondés, Balzac était reçu par la demi-sœur de son demi-frère. Une parenté bien balzacienne. C'est vrai qu'on a l'impression d'être dans la comédie humaine. Ce séjour ne ressemble pas, disons-le, à tous ceux qu'avait pu effectuer Balzac dans le cours des années 1830. Cette fois, il ne s'agit pas de travailler de nouveau, de s'enfermer pour écrire. Balzac jouit de l'îlot de tranquillité qu'est Sachet et malgré tout, dans ce havre aussi, la réalité le rattrape. Il constate sa faiblesse physique puisque en balade, une pente peut prendre des allures d'obstacles insurmontables. Il se rend compte qu'il n'est plus du tout capable de se promener seul. À distance, il suit les événements complexes de cette révolution de 48 et puis finalement, en juillet, il décide de rentrer à Paris pour être présent aux funérailles de Chateaubriand qui est mort le 4 de ce mois de juillet. Il va donc laisser Sachet, sa vie simple et paisible, sa noble façade claire, son beau vallon derrière lui. Ce séjour de Balzac à Saché était pour lui le dernier. Honoré repart bientôt pour un nouveau voyage à travers l'Europe, voyage au cours duquel il va donc enfin épouser Madame Anska. Son retour à Paris a lieu en 1850 et c'est là qu'il meurt le 18 août, à seulement 51 ans, épuisé d'avoir offert au monde une œuvre colossale, fourmillante, inégalée. C'est un géant qui vient de disparaître et... Je ne peux pas finir ce récit sans citer à nouveau quelques lignes célèbres du Lys dans la vallée, cette œuvre caressée par l'atmosphère de la Touraine. Voilà comment finissent les plus beaux sentiments et les plus grands drames de la jeunesse, écrivait Balzac. Nous partons presque tous au matin, comme moi de Tours pour Clochegourde, nous emparant du monde, le cœur affamé d'amour. Puis, quand nos richesses sont passées par le creuset, quand nous nous sommes mêlés aux hommes et aux événements, tout se rapetisse insensiblement. Nous trouvons peu d'or parmi beaucoup de cendres. Voilà la vie telle qu'elle est, de grandes prétentions, de petites réalités. Bonjour madame, monsieur, vous êtes les co-auteurs du catalogue qui accompagne cette exposition du musée Balzac, château de Saché, Balzac, architecte d'intérieur.
Europe 1. Au cœur de l'histoire.
Franck Ferrand, 14h-15h sur Europe 1.
Balzac et son refuge, le château de Saché, sont au cœur de l'histoire. Vous recevez Franck Ferrand cet après-midi. Nathalie Price, professeure à l'Université de Reims, présidente du groupe d'études balzaciennes et conseiller scientifique de l'exposition Balzac, architecte d'intérieur, et l'inspecteur au mobilier national, Jean-Jacques Gauthier, commissaire de cette exposition qui se tient au musée Balzac en ce moment même au château de Saché.
Alors, je n'ai pas vu, pour tout vous dire, et j'en suis bien désolé, ce qu'est devenu le château de Saché depuis qu'au printemps 2015, il a été remeublé par les bons soins du mobilier national sous la houlette de Jean-Jacques Gauthier. Je vais me précipiter pour voir ça dans le cours de l'été et j'en profiterai évidemment pour visiter cette exposition Balzac, architecte d'intérieur. Ce que je me rappelle de mes précédentes visites à Saché, parce que ça fait partie des lieux, vous savez, quand vous habitez cette région de la France, ça fait partie des lieux incontournables, bien entendu, c'est la chambre de Balzac. J'espère que vous ne l'avez pas trop bousculé, cette chambre, Jean-Jacques Gauthier.
Non, Franck Ferrand, nous n'avons absolument pas bougé quoi que ce soit dans la chambre de Balzac. Nous avons simplement changé le crucifix qui était au-dessus du lit et qui correspond beaucoup plus à ce que montrent les documents photographiques que ce qu'il y avait encore à une date récente.
Alors, on a évidemment cette chambre. Quelques souvenirs de Balzac. Et vous avez utilisé, si je puis dire, la maison comme un lieu balzacien d'une certaine façon. C'est-à-dire que vous n'avez pas simplement reconstitué la maison telle qu'elle pouvait être à l'époque de Balzac. Vous avez reconstitué l'atmosphère de Balzac et de son œuvre dans le château de Saché.
C'est un peu la vocation de cette exposition.
Hein, c'est ça.
C'était en quelque sorte que le visiteur, au fur et à mesure qu'il progressait dans le château de Saché, vous avez remarqué peut-être qu'on commence par une porte bâtarde pour monter au premier étage du château de Saché.
C'est assez étrange. Hein,
c'est un terme qui revient très souvent chez Balzac de plus. Et on arrive donc dans une distribution qui est celle de Saché et sur laquelle on a essayé de superposer une thématique par rapport à chaque pièce. Évidemment, il y a des pièces d'introduction qui servent à présenter l'exposition elle-même, que ce soit sur le plan historique, sur le plan d'évolution des styles, sur le plan façon de fonctionner de Balzac quand il écrit et qu'il fait référence donc à tout ce qui est art décoratif, décoration intérieure, mais aussi architecture intérieure. Et par la suite, dans différentes pièces, on a essayé de recréer des atmosphères qui évoquent pas forcément un seul des romans de Balzac, mais plusieurs
et
romans
voilà,
de Balzac.
Parce qu'on sait à quel point Balzac attachait une importance primordiale à la disposition des lieux et aux décors dans lesquels il fait évoluer ses personnages. Nous y viendrons tout à l'heure. Avant cela, restons à Saché, si je puis dire, Nathalie Price, pour évoquer cette famille de Margonne assez extravagante. On est quand même dans un rapport assez étrange avec la propre famille de Balzac. Alors, est-ce que oui ou non, le petit frère, Henri, était bien le fils de Monsieur de Margonne?
Oui,
Oui, bon, ben voilà.
Il n'y a pas de doute. Et c'était en quelque sorte un secret de Polichinelle. Et d'ailleurs, Balzac, à propos de la province, au début de la Grande Bretèche, dit « Un des plus vifs plaisirs en province, c'est que chacun poursuit avec le plus d'acharnement, est la découverte des secrets en amour. »
Eh oui.
Donc, il savait bien de quoi parler.
Il a été très bien placé tout jeune pour comprendre les ressorts complexes de la nature humaine. Il était conscient d'avoir un demi-frère et non pas un petit frère, le jeune Honoré, vous pensez qu'il...
Je crois qu'il ne pensait pas les choses ainsi. Je crois que chez Balzac, il y avait surtout une réflexion sur l'amour maternel et un amour maternel distribué de façon différente selon qu'il s'agissait d'Henri ou qu'il s'agissait de lui-même. Mais en même temps, et paradoxalement, à la fin de sa vie, il disait bien, il remerciait sa mère de ne pas l'avoir étouffé de caresses parce qu'autrement, il serait devenu Henri et il ne serait pas devenu Honoré.
Parce qu'il faut dire un mot d'Henri Balzac, hein, qui en fait n'a pas fait de carrière, lui, c'est le moins qu'on puisse dire.
Oh, il a fait une carrière à rebondissement.
Oui.
Il est un personnage balzacien puisqu'il est parti tôt. Il se croyait à une vocation pour le commerce. Il avait appris l'anglais, l'allemand, ou ce qu'il croyait être l'anglais et l'allemand. Et puis, il est parti pour l'île Maurice, où il s'est marié avec une veuve habitant un lieu intitulé le Trou Fanfaron. Ça ne s'invente pas, véritablement. Et il a fait toute... carrière quasiment d'aventurier, sinon de raté, de géomètre arpenteur. Et Balzac est intervenu d'ailleurs en sa faveur, auprès notamment du contre-amiral de l'île Bourbon, etc., pour qu'il soit commis en marine. Il a essayé véritablement de l'aider. Mais il est vrai qu'Henri avait une autre personnalité, une personnalité de projet, et toujours en projet, sans pour autant pouvoir les réaliser. Il y a peut-être là aussi quand même une secrète parenté.
Oui,
avec
c'est
Balzac.
Vrai, finalement. Oui,
cette
vous avez raison.
De se projeter, même si chez Balzac, il y a cette réalisation et cette force et cette énergie qui le caractérise et qui, en aucun cas, n'était
chez
évidemment
Henri,
la personnalité d'Henri.
Alors, on voit Balzac très souvent assaché, en tout cas dans la première partie de sa vie. Il aime la compagnie des Margonnes, il est bien accueilli d'eux. Quelles sont ses relations avec M. de Margonnes?
Ce sont de bonnes relations. Oui. Il n'aimait pas, comme vous l'avez souligné, Mme Margonne ou Mme de Margonne, puisque, en effet, il n'y a pas cette particule, mais Balzac aimait.
Lui, il colle des particules partout.
Voilà.
Oui.
Non, mais il était dit Jean de Margonne. Hein, ça, c'est tout à fait attesté. Il n'aimait pas du tout Madame Margonne, puisqu'il disait « Cette femme jaune habite une rue qui s'appelle la rue verte ». Il ne l'aimait pas du tout. En revanche, il appréciait, et M. de Margonne l'appréciait, et au fur et à mesure, évidemment, des séjours assachés, Balzac devenant véritablement un écrivain reconnu, c'était un bénéfice, bien entendu.
Il devenait l'illustration de la maison.
Un signe extérieur de richesse culturelle, dirais-je, pour M. de Margonne.
Un petit peu une attraction,
évidemment.
Même, on peut le dire,
oui,
peut-être.
D'une certaine façon.
Le voisinage était relevé, il y avait des personnalités ou des figures marquantes.
Voisinage tout à fait important, bien que Balzac ait été fort sévère, puisqu'il disait ce sont des bêtes et je me sens bête avec eux. Enfin, il était
fort sévère
à cet égard. Mais il y avait en effet toute la compagnie des Savary, des Donadieu, etc. Oui, il y avait vraiment un entourage
Alors,
tout à fait relevé.
Balzac savait, nous l'avons vu, se mettre un peu en retrait de cette compagnie.
Oui.
Il vivait un peu comme un sauvage dans sa chambre, dans ses appartements de Saché, où il a fait donc de fréquents séjours. Qu'aimait-il, somme toute, Jean-Jacques Gauthier à Saché, d'après vous? Il aimait la nature, il aimait le...
Je dirais que c'était inversement proportionnel à son amour de Paris
c'est
et
ça,
du luxe.
Hein, c'est curieux, ça.
Oui. Il avait l'impression, je pense, peut-être que je me trompe, qu'il avait un sentiment d'appartenir à une aristocratie. Et ça, c'est une des questions de la légitimité chez Balzac, cette notion de légitimité qui est presque obsédante chez lui, à la fois sur le plan politique, mais le politique est réellement un prétexte. Et je crois qu'il se sentait quelque part, tout en étant le demi-frère d'un illégitime, légitime.
C'est ça. Il était un peu chez lui, d'une certaine manière. C'était son autre chez lui. Alors, on connaît un certain nombre de lieux balzaciens, ne serait-ce qu'à Paris. Moi, j'ai la chance d'habiter, d'être le voisin immédiat de la demeure où est mort Balzac, qui malheureusement a été rasé pour construire un gros hôtel particulier comme on les aimait à la fin du 19e siècle. Mais en tout cas, il y a toujours le parc et l'endroit qui a conservé la forme de la propriété de Balzac, une grande plaque à son nom et une statue à son effigie au bout du parc en question. Donc ça, c'est rue du Faubourg Saint-Honoré, hein, le long de la rue Berryer. dans le quartier de l'Étoile à Paris. Il y a la maison de Balzac, bien sûr, dans le quartier du Ranelagh, qu'on peut visiter, et là où la mémoire de Balzac est encore très présente. Et puis, ce château de Saché, qui est un musée Balzac, dans lequel a lieu en ce moment l'exposition Balzac, architecte d'intérieur. Ça nous amène au goût de Balzac, à son goût personnel, aux décors dans lesquels il vivait, mais aussi au goût qui se manifeste à travers son œuvre et aux décors à travers lesquels, dans lesquels il faisait vivre ses personnages.
L'histoire sur Europe 1, c'est avec Franck Ferrand. Franck Ferrand, 14h, 15h sur Europe 1.
Des préludes de Liszt sur Europe 1. Honoré de Balzac et le château de Saché en Touraine sont au cœur de l'histoire. Vous recevez Franck Ferrand, Nathalie Price, professeure à l'Université de Reims, présidente du groupe d'études balzaciennes, conseiller scientifique de l'exposition Balzac, architecte d'intérieur, et l'inspecteur au mobilier national Jean-Jacques Gauthier, commissaire de cette exposition Balzac, architecte d'intérieur, qui se tient au musée Balzac en ce moment même, le musée Balzac au château de Saché.
Tout près de Tours. Exactement. Je sens que je vais vous énerver un petit peu, Nathalie Price, parce que je dois vous dire que lorsque j'étais jeune et que je découvrais l'œuvre immense de Balzac, j'avais une fâcheuse tendance à sauter les descriptions. Alors que ces descriptions, n'est-ce pas, j'ai fini par comprendre avec le temps qu'elles sont la quintessence même de ce qu'il a à raconter.
Tout à fait. Et comme le disait Proust, tout le monde passe les descriptions, mais heureusement, ce ne sont pas les mêmes.
Mais c'est ça.
Donc, cela est tout à fait important. Et ces descriptions, en effet, ont toujours une vocation d'intellection, en quelque sorte, du monde, et d'intellection de l'histoire qu'il va suivre. C'est un ensemble de signes. Et Balzac est, en quelque sorte, un sémioticien du monde, un herméneute du monde, et qui voit dans chaque détail un signe du visible et de l'invisible.
Et quand on a soi-même l'expérience et que l'on revient à Balzac, si je puis dire, on se rend compte que ces descriptions sont un vrai bonheur, un vrai régal. Elles nous en disent quasiment davantage sur la nature humaine que les dialogues et les événements eux-mêmes qui traversent l'œuvre. Hein. C'est assez étonnant.
Tout à fait. Il y a chez Balzac, tout à fait intéressé par la physiognomonie, mais telle qu'il la lit, le rapport entre monde visible et invisible, animal et humain, intérieur et extérieur, vie intérieure et extérieure, et c'est ainsi qu'il conçoit précisément ses décors. Et par exemple, au début du Père Goriot, on pense aux pantoufles grimacées de Madame Vauquer, et c'est déjà tout un itinéraire qui ainsi se dessine.
Et oui, et les univers qui sont décrits sont sans doute l'évocation la plus profonde, la plus complète qu'on puisse avoir de ces périodes de la fin du XVIIIe et surtout du début du XIXe siècle, en fait. C'est-à-dire, c'est beaucoup plus fort à la limite que la peinture ou que certains rapports beaucoup plus secs qu'on pourrait en avoir. Il nous fait comprendre l'âme même d'un peuple. C'était très étonnant.
Parce que cela s'inscrit dans la nouveauté du projet balzacien. Balzac, en effet, s'est voulu romancier parce qu'il s'est voulu historien. Mais non plus historien des dates et historien des événements. Il appelle ça l'histoire squelette, l'histoire charnière.
Oui. C'est la nôtre, ça, tant pis pour les squelettes.
Il lui substitue l'histoire des mœurs privées et publiques.
Et des sensibilités, on pourrait dire.
Dans cette perspective. Absolument. Et l'histoire des mœurs publiques et privées, une histoire descriptive, mais aussi une histoire explicative. Et pour lui, la passion est le moteur social absolument de tout et qui va jusqu'à une énergétique. C'est ainsi qu'il y a un projet de Balzac. Et c'est pourquoi le décor prend une importance toute particulière. Il avait même le projet d'une histoire de France pittoresque où le mobilier est fondamental. Mais surtout, ce qu'il appelle, et c'est une nuance importante, le mobilier social. C'est-à-dire que ce à quoi il apporte une attention particulière, c'est au déménagement social post-révolutionnaire et à ce moment qui est pour lui fondamental de la deuxième révolution, si l'on peut dire, après 1789-1793.
Évidemment.
C'est un traumatisme fondamental.
Pour... Il y a eu, nous avons souvent eu l'occasion de le dire ici, mais il y a ce passage de propriété absolument essentiel de l'aristocratie à la bourgeoisie, à travers notamment les biens nationaux, mais pas uniquement d'ailleurs. C'est un grand passage de relais dont Balzac est l'historien, dont Balzac est le témoin acteur en même temps. C'est fascinant ça, Jean-Jacques Gauthier, et vous devez, vous qui avez cet amour du mobilier, vous devez trouver dans cette œuvre des pages confondantes.
Oui, il y a effectivement une sorte de traduction de ces bouleversements dont parle Nathalie Price dans les ameublements qui sont décrits dans la Comédie humaine en particulier, où l'on voit apparaître des meubles nouveaux qui sont sous influence bourgeoise en quelque sorte, ou parfois sous influence anglaise, ce qui revient presque à la même chose. Et on a en même temps souligné chez Balzac continuellement, volontairement, des archaïsmes, des meubles archaïques. Des meubles qui sont là pour faire date, pour essayer, pour s'ancrer dans le passé, pour donner une profondeur chronologique, ce qui lui permet à la fois de jouer sur le plan social, sur ses intrigues, et d'enrichir toujours, évidemment, les caractères des personnages qui sont évoqués.
Est-ce que vous pouvez vous prendre pour Balzac un instant, Jean-Jacques Gauthier, et nous faire visiter votre propre exposition, nous dire ce que l'on voit lorsqu'on est à Sachet en ce moment?
Je ne serai jamais honoré de Balzac. D'abord, j'ai dépassé l'âge.
Oui, ça c'est sûr, incontestablement.
Et puis, je veux bien jouer, effectivement, peut-être à Monsieur Margonne,
les guides,
à Monsieur Margonne qui pousse les portes de Sachet et qui présente l'exposition. Alors, il y a deux sortes de salles de présentation, mais je crois que ce qui peut vraiment motiver le public à se rendre à Sachet, c'est cette particularité qui, à mon sens, ne se retrouve pas dans d'autres événements de ce type. C'est que le mobilier national, de par l'abondance de ses collections, de par la diversité typologique de ces ameublements qui sont en réserve, permet de présenter des reconstitutions presque absolues de pièces qui évoquent la Comédie humaine.
Oui, nous avons fait une émission au cœur de l'histoire en direct du mobilier national dont vous nous aviez justement à l'époque ouvert les portes, et je dois vous dire que c'est à la fois un bon souvenir parce que les collections du mobilier national sont éblouissantes, et sans doute le pire souvenir de ma carrière radiophonique, puisque nous avons été surpris ce jour-là par une tornade, une bourrasque invraisemblable qui a cassé nos antennes relais et qui a fait que pendant 11 minutes il n'y a pas eu de programme sur Europe 1. C'était quand même assez spectaculaire. Bon, vous avez effectivement au mobilier national tout ce qu'on peut imaginer, ce qui permet d'aller piocher, si je puis dire, dans cette réserve gigantesque des meubles qui permettent de se rapprocher au plus près de l'univers balzacien. Alors, qu'avez-vous fait? Vous avez reconstitué des décors de romans, ou vous avez reconstitué le décor dans lequel vivait Balzac?
Non, ce sont exclusivement des décors de romans. C'est l'imaginaire de Balzac qui est projeté dans l'exposition. Donc on pousse une porte et on se retrouve dans le magasin d'antiquités du Quai Voltaire.
Formidable.
De la Peau de Chagrin. Vous avez un boudoir qui est reconstitué, qui est certainement une référence à tous les boudoirs balzaciens, à son propre boudoir même de la rue des Batailles. Vous avez une salle à manger avec un surtout de Thomire. Surtout des pièces de Denière, des noms que l'on retrouve très souvent d'ailleurs comme des référents chronologiques dans l'œuvre de Balzac. Vous avez aussi l'étude de Derville, du colonel Chabert. Vous voyez, c'est un peu une sorte de jeu que l'on fait ainsi avec l'œuvre, avec la Comédie humaine, en essayant d'être au plus près du texte et tout en laissant une certaine latitude aux visiteurs pour qu'ils puissent aussi projeter ce qu'il a lu de Balzac, que ce ne soit pas trop non plus contraignant pour lui.
Et ça finit par un cabinet de curiosité. Et
ça finit par le cabinet de curiosité qui est effectivement le magasin d'antiquité, qui est aussi une évocation des meubles de collection du cousin Ponce, donc à l'extrême fin de la carrière littéraire de Balzac. Entre les deux, on a évidemment des évocations de cabinets de curiosité, de cabinets scientifiques, comme dans la recherche de l'absolu et dans d'autres romans.
Il y avait chez Balzac une sorte de passion pour les formes rares et spécifiques, en quelque sorte, Nathalie Price. Il aimait ce qui était saillant.
Oui, D'ailleurs, il utilise pour définir un personnage le terme de figure saillante. Et en effet, il a conscience, comme beaucoup de ses contemporains, qu'avec l'avènement, comme vous l'avez souligné, de la monarchie de Juillet, il y a une espèce de perte des nuances sociales et la distinction sociale qui définissait l'état social aristocratique. Donc il a besoin de faire ressortir ces figures saillantes. Et lorsque vous soulignez ces formes rares qu'il affectionnait particulièrement, cela s'inscrit tout à fait dans l'esthétique romantique, ce goût pour le grotesque n'étant pas le ridicule, mais les formes aussi qui font peur, le difforme, et le grotesque étant en harmonie avec l'infini. Dans la perspective de Hugo, il y a là un dialogue entre Hugo et Balzac, et ce sont ces formes grotesques que nous trouvons justement dans ce cabinet de curiosité.
Nos auditeurs auront donc compris que s'ils veulent se retrouver dans le salon de Vautrin, dans la chambre du père Goriot ou dans la boutique du cousin Ponce, il faut aller à Saché. Cette exposition a lieu jusqu'à...
Jusqu'au 8 janvier.
Jusqu'au 8 janvier prochain, mais c'est pas une raison pour prendre son temps. Je vais essayer d'y aller le plus vite possible en ce qui me concerne. Balzac, architecte d'intérieur, c'est donc cette exposition qui est proposée en ce moment au musée Balzac, château de Saché. Merci beaucoup à tous les deux.
Europe 1, au cœur de l'histoire.
Vous restez avec nous sur Europe 1, au cœur de l'histoire continue. Et Franck Ferrand, avant 15h, répondra à la question d'Armel qui souhaite savoir depuis quand on dort à deux dans le même lit.
Cœur de l'histoire.
Retour aux origines.
Et c'est la question intrigante d'Armel aujourd'hui. Via la page Facebook de l'émission, Armel vous demande, Franck Ferrand, depuis quand dort-on à deux dans des lits ?
Alors, j'espère qu'Armel fait allusion au lit conjugal, en l'occurrence, parce que on peut dormir de toutes les façons possibles. Mais là, en l'occurrence, le lit conjugal fait l'objet de toute une histoire. Dans la physiologie du mariage, Balzac présente les avantages et les inconvénients pour garder une certaine harmonie conjugale. Alors, il dit qu'il y a diverses solutions. Soit un lit dans une chambre, soit deux lits dans la même chambre. Ça, c'est la mode un peu protestante, vous savez, anglo-saxonne. Soit deux lits dans deux chambres séparées. Et Balzac manifeste clairement sa préférence pour cette deuxième solution. C'est la solution adoptée pendant longtemps par l'aristocratie. J'aime accoucher dur et seul, voire sans femme à la royale, un peu bien couvert, disait Montaigne. Dans la bourgeoisie, en revanche, et depuis le XIIIe siècle, depuis la sacralisation du mariage, on a tendance à faire lit commun. Et l'on sait qu'à partir du moment où la bourgeoisie reprend le pouvoir en France, au XIXe siècle, le lit conjugal va devenir central avec cette idée. Une chambre pour le ménage et un lit pour cette chambre. Ça n'est pas le cas ni dans toutes les traditions, ni à toutes les époques.